Elijah, numéro 4.
Esclavage.
Le témoignage d'Élie commence lorsqu'il déclare qu'il ne tombera pas de pluie, sinon à sa parole, pendant 3 ans et demi.
Et Élie, le Tishbite, qui était l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » 1 Roi 17:1.
Ces 3 ans et demi représentent l'histoire de Thyatire de 531 jusqu'en 2798. En 2798, à la fin de la période de sécheresse, Élie convoque Achab au Mont Carmel. Le premier message des anges a annoncé l'heure du jugement de Dieu le 22 octobre 1844. Le message du premier ange était l'ordre donné à Achab de convoquer tout Israël au Mont Carmel.
Et il arriva que lorsqu'Achab vit Élie, Achab lui dit « Es-tu celui qui trouble Israël ?» Et il répondit « Je n'ai pas troublé Israël, mais toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Maintenant donc, envoie et rassemble près de moi tout Israël au Mont Carmel, et les prophètes de Baal, 450, et les prophètes des bosquets, 400, qui mangent à la table de Jézabel. » Alors Achab envoya vers tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes au Mont Carmel. Et Élie s'adressa à tout le peuple et dit « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions ? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. » Et le peuple ne lui répondit pas un mot. 1 Roi 18, 17-21.
Tout Israël fut rassemblé au Carmel, à l'époque d'Élie, ce qui, à son tour, représentait l'histoire de William Miller, lorsque les 3 églises du chapitre 3 de l'Apocalypse furent rassemblées. L'église qui, en 438, s'était d'abord enfuie au désert pour échapper à la persécution de Jézabel, telle que représentée par l'église de Thyatire, sortie du désert en tant que génération appelée à être confrontée au message d'Élie, représenté par William Miller. La bête de la terre ouvrit alors sa bouche et engloutit le flot de persécution qui avait été envoyé contre les temps pendant 1260 ans.
Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa bouche. Apocalypse 12, 16.
Dans la prophétie, la parole d'une nation correspond à l'action de ses autorités législatives et judiciaires. Et en 1789, les États-Unis ont paissé le document divin qu'est la Constitution des États-Unis, protégeant ainsi les droits et la liberté nécessaires pour assurer une protection contre la persécution, tant de la part des rois d'Europe que de l'Église catholique apostate.
La voix de la nation, c'est l'action de ses autorités législatives et judiciaires. La Grande Controverse, 443.
In situ 49, juste avant le début du rôle prophétique des États-Unis en tant que 6e royaume de la prophétie biblique, les États-Unis parlaient comme un agneau, mais au moment de la loi du dimanche, ils parleront comme un dragon.
Et je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Apocalypse 13, 11.
Le début et la fin de la bête de la terre sont marqués par le fait qu'elle parle. En 1798, Achab convoque tout Israël au Mont Carmel, où Élie va présenter une épreuve pour prouver à ceux qui assistent si le Dieu des Hébreux ou le Dieu de Jézabel est le vrai Dieu. Jézabel avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes du bois sacré. Le faux dieu Baal était une divinité masculine et la fausse déesse Ashtaroth était une divinité féminine. Ces 2 classes de faux prophètes représentent l'union de l'Église et de l'État. Car, dans la prophétie, lorsqu'un homme et une femme sont représentés ensemble, la femme représente une église et l'homme l'État. Élie était en infériorité numérique de 850 contre 1, alors qu'il affrontait l'alliance impie de l'église et de l'État, telle qu'elle était représentée par les fausses divinités féminines et masculines, ainsi que par le mariage d'Achab et de Jézabel. L'illustration de l'union de l'église et de l'État, par Achab et Jézabel, représente la corruption de la corne du républicanisme et Baal et Astarté représentent la corruption de la corne protestante. Il s'agissait de la protestation d'Élie contre la religion corrompue représentée par Thyatire dans le chapitre 2 de l'Apocalypse. Élie représentait un protestant car la seule définition de protestant est quelqu'un qui proteste contre Rome. La protestation d'Élie est une protestation contre l'union de l'Église et de l'État qui s'opère par l'alliance impie entre un État corrompu et une Église corrompue.
Cependant, j'ai quelques griefs contre toi. Tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour les amener à se livrer à l'impudicité et à manger des choses sacrifiées aux idoles.
Je lui ai donné du temps pour se repentir de son impudicité. Mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jetterai sur un lit, et je plongerai dans une grande tribulation ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Apocalypse 2, 20, 99.
Manger représente le message que vous acceptez. Et un message sacrifié aux idoles représente les doctrines du catholicisme, le symbole même de l'abominable culte des idoles. Le peuple de Dieu au Moyen Âge avait fini par accepter de nombreuses doctrines païennes du catholicisme et en particulier le culte du soleil. La fornication est une liaison illicite et, prophétiquement, représente l'essence même de ce que la Constitution interdit, l'alliance de l'Église et de l'État. Achab était dans une liaison illicite avec Jézabel, car en tant que roi d'Israël, il ne devait pas épouser une princesse païenne. Jésus a identifié Jean-Baptiste comme étant Élie, et Jean s'est aussi opposé à la même relation impie lorsqu'il a réprimandé Hérode pour avoir épousé Hérodiade, la femme de son frère.
Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de la voir ». Matthieu 14, 3, 4.
La confrontation d'Élie avec Achab et Jézabel a préfiguré la confrontation de Jean avec Hérode et Hérodiade. Car ces deux relations représentaient une union illicite de l'Église et de l'État. Ensemble, elles représentent le message d'Élie des 144 000 qui affrontent la papauté, Jézabel, et Hérodiade, les 10 rois qui représentent les Nations Unies, Achab et Hérode, et les États-Unis, qui représentent le faux prophète, les faux prophètes du Carmel, et Salomé, la fille d'Hérodiade. Le cadre prophétique au Mont Carmel comprend la défense par Élie de la Constitution des États-Unis, qui consacre le principe de la séparation de l'Église et de l'État.
« Et il arriva que, lorsque Achab vit Élie, Achab lui dit, « Est-ce celui qui trouble Israël ?» Et il répondit, « Ce n'est pas moi qui ai troublé Israël, c'est toi et la maison de ton père, pour avoir abandonné les commandements du Seigneur et parce que tu as suivi les Baals. » 1 Roi 18, 17, 18.
La Constitution a établi que les deux cornes du républicanisme et du protestantisme demeureraient toujours distinctes l'une de l'autre. Mais l'Apocalypse indique que, lorsque les États-Unis parleront finalement comme un dragon, ce sera lorsque les églises apostates des États-Unis prendront le contrôle et s'uniront au gouvernement apostat.
Mais qu'est-ce que l'image pour la bête? Et comment doit-elle être formée? L'image est faite par la bête à deux cornes et c'est une image pour la bête. On appelle aussi une image de la bête. Alors, pour savoir à quoi ressemble cette image et comment elle doit être formée, nous devons étudier les caractéristiques de la bête elle-même. La papauté. Lorsque l'Église primitive se corrompit en s'écartant de la simplicité de l'Évangile et en acceptant des rites et des coutumes païens, elle perdit l'esprit et la puissance de Dieu. Et, afin de contrôler les consciences du peuple, elle rechercha l'appui du pouvoir séculier. Il en résulta la papauté, une Église qui contrôlait le pouvoir de l'État et l'employait à poursuivre ses propres fins, notamment pour la punition de l'hérésie. Pour que les États-Unis forment une image de la bête, le pouvoir religieux doit contrôler à ce point le gouvernement, civil, que l'autorité de l'État sera également employée par l'Église pour accomplir ses propres fins. La Grande Controverse, 443.
Élie, au Mont Carmel, représentait l'œuvre des Millérites. Et les Millérites furent établis comme le véritable prophète, par contraste avec ceux qui étaient récemment sortis de l'influence du catholicisme, mais qui, en rejetant la lumière du premier ange, choisirent de retourner à Rome. Ainsi, le message du deuxième ange au printemps 1844 consistait à identifier les confessions protestantes comme des filles de Babylone et les Millérites comme la véritable corne protestante. Lorsque Dieu fit sortir l'ancien Israël de l'esclavage d'Égypte et le fit traverser les eaux de la mer Rouge, il inaugura un processus d'épreuves progressives qui commença par l'épreuve de la manne céleste.
Si on oublie la lumière accumulée des âges passés, l'histoire de l'oubli d'Israël a été conservée pour notre instruction. À notre époque, Dieu a entrepris de rassembler pour lui un peuple de toutes nations, tribus et langues. Dans le mouvement adventiste, il a œuvré en faveur de son héritage, tout comme il l'a fait pour les Israélites en les conduisant hors d'Égypte. Lors de la grande déception de 1844, la foi de son peuple a été mise à l'épreuve, comme le fut celle des Hébreux à la mer Rouge. Témoignage, volume 8, 115, 116.
La déception du 22 octobre 1844 a conduit à la compréhension du sanctuaire céleste, ce qui introduisit alors l'épreuve du sabbat, tout comme l'épreuve de la manne devint la première d'une série de 10 épreuves pour l'ancien Israël.
Le Seigneur m'a donné la vision suivante en 1847, alors que les frères étaient réunis le jour du sabbat, à Topsham, dans le Maine. Nous ressentîmes un esprit de prière inhabituel. Et tandis que nous prions, le Saint-Esprit tomba sur nous. Nous fûmes très heureux. Bientôt, je fus soustrait aux choses terrestres et enveloppé dans une vision de la gloire de Dieu. Je vis un ange voler rapidement vers moi. Il me transporta rapidement de la terre jusqu'à la ville sainte. Dans la ville, je vis un temple où j'entrai. Je franchis une porte avant d'arriver au premier voile. Ce voile fut levé, et je passai dans le lieu saint. Là, je vis l'autel des parfums, le chandelier à 7 lampes et la table sur laquelle étaient les pains de proposition. Après avoir contemplé la gloire du lieu saint, Jésus leva le second voile et j'entrai dans le lieu très saint.
Dans le lieu très saint, je vis une arche. Le dessus et les côtés en étaient du plus pur or. À chaque extrémité de l'arche se trouvait un beau chérubin, ayant les ailes déployées au-dessus d'elle. Leurs visages étaient tournés l'un vers l'autre, et ils regardaient vers le bas. Entre les anges se trouvait un encensoir d'or. Au-dessus de l'arche, là où se tenaient les anges, se trouvait une gloire extrêmement éclatante, qui paraissait comme un trône où Dieu demeurait. Jésus se tenait près de l'arche, et à mesure que les prières des saints montaient vers lui, l'encens dans l'encensoir se mettait à fumer, et il offrait leurs prières, avec la fumée de l'encens, à son Père. Dans l'arche se trouvait le vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait bourgeonné, et les tables de pierre qui se repliaient ensemble comme un livre. Jésus les ouvrit, et je vis les 10 commandements écrits sur elles du doigt de Dieu. Sur une table, il y en avait 4, et sur l'autre, 6. Les 4 de la première table brillaient plus vivement que les 6 autres, mais le 4e, le commandement du sabbat, brillait au-dessus de tous, car le sabbat était mis à part pour être observé en l'honneur du saint nom de Dieu. Le saint sabbat paraissait glorieux. Un halo de gloire l'entourait de toutes parts. Je vis que le commandement du sabbat n'avait pas été cloué à la croix. S'il l'avait été, les 9 autres commandements l'auraient été aussi, et nous serions libres de les transgresser tous, aussi bien que de transgresser le 4e. Je vis que Dieu n'avait pas changé le sabbat, car il ne change jamais. Mais le pape l'avait changé du 7e au premier jour de la semaine, car il devait changer les temps et les lois. Premiers écrits, 32.
Lorsque les protestants sortirent de l'âge des ténèbres en 1798 et que le livre de Daniel fut décellé, le 6e royaume de la prophétie biblique, la bête de la terre à 2 cornes d'Apocalypse 13, commença sa marche à travers l'histoire prophétique. Le protestantisme fut fondé sur le document sacré appelé la Sainte Bible, et le républicanisme fut fondé sur le document sacré appelé la Constitution. Dieu avait fait sortir son Église, au désert, de l'âge des ténèbres. Mais, comme pour l'Israël ancien durant la période d'esclavage en Égypte, le commandement du sabbat avait été oublié. De même qu'Israël traversa la mer Rouge en route vers le don de la loi au Sinaï, Israël moderne traversa l'Atlantique en route vers le 22 octobre 1844, où la loi serait de nouveau révélée. Le Seigneur suscitait de nouveau un peuple qui serait le dépositaire de sa loi, le dépositaire de ses révélations prophétiques et qui porterait le manteau du protestantisme. À l'Israël ancien furent données les 2 tables des 10 commandements comme symbole de son œuvre en tant que dépositaire de sa loi, et à l'Israël moderne furent données les 2 tables d'Habacuc comme symbole de son œuvre en tant que dépositaire de sa parole prophétique. Israël moderne devait porter les 2 ensembles de 2 tablettes en présentant au monde le message du 3e ange, lequel est le message proclamé par ceux qui portent le manteau du protestantisme. Le protestantisme issu des ténèbres du Moyen-Âge était alors incomplet, tout comme l'Israël ancien lorsqu'il traversa la mer Rouge. Le protestantisme avait professé la devise « la Bible et la Bible seule », mais n'avait qu'une compréhension incomplète de la parole de Dieu après des siècles passés à se nourrir des doctrines païennes du catholicisme romain, chose sacrifiée aux idoles. Dieu voulait qu'un véritable protestant représente l'ensemble de la parole de Dieu, symbolisé par la loi et les prophètes, les 2 ensembles de 2 tablettes qui représentent à la fois l'œuvre du peuple de Dieu et le caractère de Dieu. L'œuvre du premier ange était de produire un peuple protestant authentique qui serait à la fois dépositaire de sa loi et de sa parole prophétique.
Dieu a appelé son Église en ce jour, comme il a appelé l'Israël ancien, à être une lumière sur la terre. Par le puissant couperet de la vérité,
les messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Il les a séparés des églises et du monde afin de les amener dans une sainte proximité avec lui-même. Il les a fait dépositaires de sa loi et leur a confié les grandes vérités de la prophétie pour ce temps. Comme les saints oracles confient à l'Israël ancien, celles-ci sont un dépôt sacré à communiquer au monde. Les trois anges d'Apocalypse 14 représentent le peuple qui accepte la lumière des messages de Dieu et qui s'avance comme ses agents pour faire retentir l'avertissement par toute l'étendue de la terre. Témoignage, volume 5, 455.
L'avertissement qui doit être proclamé par ceux qui ont été identifiés comme les dépositaires des deux paires de tables est contre le fait de recevoir la marque du catholicisme. Cette protestation s'oppose à la relation illégitime entre Achab et Jézabel et a été représentée par Élie sur le mont Carmel. Le don des deux tables de pierre au mont Sinaï préfigurait le don des deux tableaux en toile d'Abacuc au cours de la période 1842-1849. Les deux tableaux d'Abacuc sont le symbole de la relation d'alliance entre Dieu et son peuple protestant. Rejeter ces tableaux équivaudrait au rejet de la loi de Dieu par l'Israël ancien. Les Millérites s'entrèrent dans le lieu très saint et reçurent la lumière du sabbat, mais le processus d'épreuve n'était pas encore achevé. Simultanément, la corne du républicanisme avançait à travers cette même histoire, et les deux cornes devaient atteindre à jalons dans leur marche commune en 1863. Le message d'Élie de Miller a produit un processus de purification progressif dans le but d'établir la corne protestante, et dans la même histoire, la corne républicaine a été impliquée dans un processus progressif de développement politique. Les deux cornes sont sur la même bête de la terre, elles doivent donc avancer à l'unisson tout au long de l'histoire de la bête de la terre. La première caractéristique prophétique de la corne républicaine de la bête de la terre fut l'action de faire entrer en vigueur la Constitution en la proclamant en 1789. En 1798, le temps de la fin, lorsque le livre de Daniel fut décellé, la bête de la terre parlerait pour la première fois en tant que sixième royaume de la prophétie biblique. 1798 marqua le début des États-Unis en tant que sixième royaume de la prophétie biblique, et l'acte de parole qui se produisit au début de l'histoire de la bête de la terre en 1798 préfigurerait la dernière fois où le sixième royaume parlerait, moment qui est représenté comme la voix du dragon. Lorsque nous considérons les lois adoptées par la corne républicaine aux États-Unis en 1798, nous devrions nous attendre à voir une typification des lois qui seront adoptées en lien avec la loi du dimanche, lorsque les États-Unis parleront comme un dragon. En examinant les quatre lois suivantes, demandez-vous si les quatre lois adoptées en 1798 portent la signature prophétique de l'alpha et de l'oméga. En 1759, les États-Unis ont adopté plusieurs lois importantes, connues sous le nom de « Loi sur les étrangers et la sédition ». Ces lois étaient au nombre de quatre, adoptées par un congrès dominé par les fédéralistes et promulguées par le président John Adams, le deuxième président des États-Unis et ancien vice-président de George Washington. La loi sur la naturalisation. Cette loi portait de 5 à 14 ans la durée de résidence requise pour que les immigrants deviennent citoyens des États-Unis. Elle visait principalement à freiner l'influence des immigrants récents, qui étaient souvent alignés sur le parti d'opposition, les démocrates républicains. La loi sur les étrangers amis, cette loi autorisait le président à expulser les non-citoyens considérés comme une menace pour la sécurité des États-Unis en temps de paix. Elle permettait au président de détenir et d'expulser tout non-citoyen qu'il considérait dangereux. La loi sur les ennemis étrangers. Cette loi prévoyait l'arrestation, la détention et l'expulsion de citoyens des pays en guerre avec les États-Unis. Elle a été adoptée à titre préventif dans le climat tendu de la fin des années 1790. La loi sur la sédition. Il s'agit de la plus controversée des lois sur les étrangers et la sédition. Elle érigeait en infraction pénale la publication d'écrits, faux, scandaleux et malveillants contre le gouvernement ou ses responsables, dans l'intention de les diffamer ou de les discréditer. Les critiques y voyaient une attaque directe contre la liberté d'expression et la liberté de la presse. Les lois sur les étrangers et la sédition étaient très controversées et ont suscité une opposition importante de la part des démocrates républicains, qui estimaient que ces lois violaient des droits constitutionnels fondamentaux et visaient leur parti politique. Ils soutenaient qu'elles constituaient une atteinte au premier amendement qui protège la liberté d'expression et de la presse. Finalement, ces lois ont joué un rôle dans l'élection de 1800 lorsque Thomas Jefferson et les démocrates républicains ont remporté la présidence et le Congrès, ce qui a conduit à l'abrogation de la loi sur la sédition. Le Parti républicain démocrate estimait que ces lois violaient les droits fondamentaux garantis par la Constitution, et il estimait aussi que ces lois visaient le parti politique opposé. Peu importe que ces lois aient été abrogées ou aient ensuite expiré, l'Alpha et l'Oméga illustrent la fin par le commencement.
À l'époque où ces lois furent adoptées ou énoncées dans la loi, le Parti fédéraliste était opposé par un parti appelé Républicain-Démocrate. L'évolution du Parti Républicain-Démocrate aboutit finalement au Parti Républicain, un parti politique principalement rassemblé autour d'une position anti-esclavagiste. Les historiens identifient 1863 comme le point central même de la guerre civile, une guerre qui était fondée sur la question de l'esclavage. 1863 est aussi un jalon pour les nouveaux porte-étendards de la corne protestante, qui rejetèrent alors la première prophétie temporelle donnée à Miller par des anges, la prophétie des sept temps du Lévitique 26. Se pourrait-il que ce ne soit qu'une simple coïncidence que la prophétie des sept temps soit précisément fondée sur les lois de l'esclavage énoncées au chapitre précédent du Lévitique ? La malédiction identifiée par les sept temps était la promesse que si les lois de l'Alliance du chapitre 25 étaient transgressées, Israël mettrait alors fin à son histoire en retournant dans l'esclavage dont il avait été tiré lorsqu'il entama son périple à la mer Rouge. De 798 à 1863, le Parti démocrate républicain a connu une série de purges ou de secousses. À partir de 1798, et surtout à partir du 11 août 1840 et jusqu'en 1863, le mouvement millérite a connu une série de purges et de secousses. Le Parti démocrate républicain, qui fut l'un des premiers partis politiques aux États-Unis, ne s'est pas transformé directement en parti républicain moderne tel qu'il existe aujourd'hui. Au lieu de cela, il a connu une série de changements et de scissions au fil du temps, menant finalement à la formation de plusieurs partis politiques différents avant l'émergence du Parti républicain. Le Parti démocrate républicain, souvent associé à Thomas Jefferson et James Madison, a été fondé à la fin du XVIIIe siècle en réaction au Parti fédéraliste. Les démocrates républicains défendaient une interprétation stricte de la Constitution, les droits des États et les intérêts à grahir. Cependant, dès les années 1820, le Parti républicain-démocrate commença à se fracturer selon des clivages régionaux et idéologiques. La scission principale eut lieu durant l'ère des bons sentiments, 1817-1825, période marquée par l'absence d'une opposition forte à la présidence de James Monroe. Cette période de tranquillité politique contribua au déclin du Parti républicain-démocrate. Le parti finit par se scinder en plusieurs factions et évolua pour devenir les groupes politiques suivants. Parti démocrate, les partisans d'Acton Andrew Jackson, devenu le septième président en 1829, ont fondé le Parti démocrate. Les démocrates jacksoniens soutenaient un pouvoir exécutif fort, l'expansion vers l'ouest et un suffrage plus large pour les hommes blancs. Parti républicain national. Ce parti a émergé en réaction à la présidence d'Andrew Jackson et a ensuite fusionné avec d'autres factions anti-Jackson pour devenir le parti Whig. Les républicains nationaux étaient généralement plus favorables à un gouvernement fédéral fort et au développement économique. Parti anti-maçonnique. Il s'agissait d'un parti politique éphémère apparu dans les années 1820, principalement en réponse à des inquiétudes concernant l'influence de la fraternité maçonnique secrète. Il a absorbé certains anciens républicains démocrates. Le Parti Whig. Formé dans les années 1830, le Parti Whig comprenait d'anciens républicains nationaux, des anti-maçons et d'autres groupes d'opposition. Il se caractérisait par son opposition aux politiques jacksoniennes, son soutien à un gouvernement fédéral fort et sa promotion du développement industriel et économique. Le Parti républicain moderne a été fondé dans les années 1850 en réponse directe aux tensions sectionnelles croissantes liées à l'esclavage. Il a attiré d'anciens Whigs, des démocrates anti-esclavagistes, des membres du Parti du sol libre et d'autres qui s'opposaient à l'expansion de l'esclavage dans les nouveaux territoires. Le premier candidat républicain à la présidence, John C. Fremont, s'est présenté à l'élection de 1856. Et le premier candidat victorieux du parti, Abraham Lincoln, a été élu en 1860. Ainsi, le Parti républicain est né indépendamment de la tradition démocrate républicaine et a suivi une trajectoire distincte dans l'histoire politique américaine. Dès 1860, le Parti républicain a élu son premier président. Il reposait sur une coalition de partis politiques opposés à l'esclavage. En 1863, la proclamation d'émancipation a fait disparaître l'esclavage. En 1863, la corne républicaine, alors représentée par le Parti républicain, a fait disparaître l'esclavage, tandis que la corne protestante a cessé d'être un mouvement et est devenue l'Église adventiste du septième jour. Le mouvement des millérites a pris fin légalement et officiellement en mai 1863. Et cette année-là, le serment de Moïse, la prophétie de l'esclavage, a été rejeté. Que celui qui a des oreilles entende. À ce stade, il pourrait être utile de présenter un bref aperçu du serment de Moïse, ainsi nommé par le prophète Daniel.
Oui, tout Israël a transgressé ta loi, jusqu'à se détourner, afin de ne pas obéir à ta voix.
C'est pourquoi la malédiction s'est déversée sur nous, ainsi que le serment qui est écrit dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui. Daniel 9:11.
William Miller, qui était guidé par Gabriel et d'autres anges, tandis qu'il étudiait la parole de Dieu, a d'abord été conduit aux sept fois du Lévitique 26. Selon le témoignage de Miller, dans son étude de la Bible, il a commencé par le livre de la Genèse, et par conséquent, il est évidemment arrivé au Lévitique bien avant d'atteindre les 2300 ans de Daniel, chapitre 8, verset 14. Il utilisait exclusivement la Bible et une concordance de Cruden. La concordance de Cruden ne comporte aucune référence aux mots hébreux ou grecs qui ont par la suite été traduits en anglais dans la Bible du roi Jacques. Miller considérait le contexte du passage qu'il étudiait pour guider sa compréhension d'un mot ou d'un passage de l'Écriture. Pour ce qui est de sa compréhension des sept fois, il est très simple de voir que le contexte des sept fois du chapitre 26 du Lévitique est le chapitre 25. Le chapitre 25 décrit le repos de la terre, le jubilé et les règles de l'esclavage. Les règles du chapitre 25 font partie de la loi de Moïse, serviteur de Dieu, qui apporte une bénédiction si on lui obéit et une malédiction si on lui désobéit. Au chapitre 26, la malédiction des sept temps équivaut à 2520 ans et est présentée dans le contexte évident des règles du repos de la terre et des principes de l'esclavage. Au chapitre 26, le châtiment est appelé « la querelle de mon alliance ».
Alors moi aussi, je me conduirai envers vous avec hostilité. Et je vous punirai encore sept fois pour vos péchés. J'amènerai contre vous l'épée, qui vengera la querelle de mon alliance. Et lorsque vous serez rassemblés dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés entre les mains de l'ennemi. Lévitique 26, 24, 25.
Dans ce contexte, l'alliance au sujet de laquelle Dieu a une querelle serait l'alliance précédemment citée au chapitre 25. La punition des sept fois est appelée la querelle de l'alliance de Dieu, et la malédiction qui y est attachée est qu'Israël serait livré entre les mains de leurs ennemis. Et, une fois dans le pays des ennemis, comme Daniel l'était, Israël deviendrait les esclaves de leurs ennemis. Lorsque Moïse a consigné le chapitre 26 du Lévitique, l'ancien Saint-Israël venait d'être délivré de la servitude d'Égypte, et les principes concernant l'esclavage présentés au chapitre 25 apporteraient soit une bénédiction, soit une malédiction. L'ancien Israël n'a jamais observé les règles du jubilé. Et, en fin de compte, les royaumes du nord et du sud furent dispersés pendant sept ans, en accomplissement de ce que Daniel appelait la « malédiction de Moïse ». La relation d'alliance entre Dieu et Israël, qui avait commencé avec leur esclavage en Égypte, s'est terminée avec leur esclavage en Assyrie et à Babylone. Les sept ans contre le royaume du Nord ont pris fin en 1798 et les sept ans contre le royaume Sud ont pris fin en 1844. Le point de départ des deux périodes de sept ans est indiqué dans le chapitre 7 d'Ésaïe, par une prophétie de 65 ans, proclamée par Ésaïe au roi Akaz de Juda en 740 Thésa avant Jésus-Christ.
« Car la tête de la Syrie, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Rezin. » Et d'ici 65 ans, Éphraïm sera brisé, de sorte qu'il ne sera plus un peuple. Et la tête d'Éphraïm, c'est Samarie, et la tête de Samarie, c'est le fils de Remalia. Si vous ne croyez pas, assurément, vous ne serez pas affermis. Ésaïe 7, Chitanuct 9.
Ésaïe avait indiqué que dans un délai de 65 ans, à partir du moment où la prophétie fut énoncée en 740 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord serait brisé. 19 plus tard, en 703 avant Jésus-Christ, le royaume du nord d'Israël fut emmené en captivité par le roi d'Assyrie, et 46 ans plus tard, le roi de Babylone emmena le royaume du sud de Juda en captivité en 667 avant Jésus-Christ. La prophétie des 65 ans fournit six jalons historiques. Le premier est 742 avant Jésus-Christ, lorsque la prédiction fut énoncée. 19 ans plus tard, en 703 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord fut emmené en captivité par les Assyriens. 46 ans plus tard, en 677 avant Jésus-Christ, le royaume du Sud fut emmené en captivité par les Babyloniens. Les premières 2528 années, qui commencèrent en 703 avant Jésus-Christ, se terminèrent alors en 798. Puis, en 1844, s'achevèrent les 2520 années qui avaient commencé en 667 avant Jésus-Christ. À partir de 1844, la prédiction s'étendit de 19 ans jusqu'en 1863 afin d'achever l'ensemble de la structure prophétique, car lorsque l'alpha et l'oméga marquèrent 19 ans pour commencer la structure prophétique, il devait y avoir 19 ans pour en atteindre la fin.
L'ancien Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte et, par la désobéissance, les royaumes du Nord et du Sud ont été ramenés à l'esclavage. Les prophéties dépassent l'histoire prophétique de l'Israël ancien, littéral, pour s'étendre à l'Israël spirituel moderne et, ce faisant, le thème de tous les jalons prophétiques est l'esclavage. La prophétie d'Ésaïe 7 fut présentée au roi impie Achaz par Ésaïe en 796 avant Jésus-Christ, alors qu'une guerre civile imminente entre le nord et le sud se profilait. Le royaume du sud d'Achaz était la terre glorieuse littérale de l'ancien Israël. En 298, la terre glorieuse spirituelle de la prophétie biblique commença à régner en tant que sixième royaume de la prophétie biblique, lorsque les sept temps contre la terre glorieuse littérale prirent fin en 1844, il y eut, comme dans l'histoire du roi Achaz, une guerre civile imminente. Vers 1844, le tumulte de partis politiques qui se scindaient et formaient des alliances s'était presque entièrement stabilisé en deux classes de tendances politiques. En matière d'esclavage, les démocrates étaient favorables à l'esclavage et les républicains y étaient opposés. De 1298 jusqu'au début de la guerre civile en 1860, le processus d'élaboration de deux classes de partis politiques s'était établi.
Achaz représentait le pays glorieux au sens littéral et, par conséquent, préfigurait le pays glorieux au sens spirituel. L'histoire Achaz préfigure l'histoire prophétique où la prophétie fut proclamée en 752 avec Jésus-Christ. Elle préfigure donc l'histoire où la prophétie s'est achevée. Au début de cette histoire, le royaume du Nord, composé de 10 tribus, s'était séparé des deux autres tribus en protestation contre le gouvernement divinement établi des deux tribus du Sud. Les 10 tribus du Nord avaient formé une confédération avec la Syrie, préfigurant l'alliance entre Sudcratie et une puissance représentée symboliquement par la Syrie.
Ce bref résumé indique que les 7 fois de Lévitique 26 constituent une promesse d'alliance à qui énonce soit une bénédiction pour l'obéissance, soit la malédiction de l'esclavage pour la désobéissance. Les royaumes du Nord et du Sud ont commencé unis en une seule nation qui a été délivrée de l'esclavage, pour être finalement ramenés en esclavage à leurs fins respectives. Les 65 années marquant la fin de ces prophéties d'esclavage se sont conclues avec Israël spirituel dans le pays glorieux spirituel. Au cœur même d'une guerre civile opposant le Nord au Sud. L'un des antagonistes de cette guerre civile était un royaume qui forma une confédération et fit sécession du gouvernement divinement établi qui se trouvait dans le royaume opposé. À partir de 1798 et jusqu'à la guerre civile, le corps du républicanisme a été soumis à un processus qui a produit deux classes d'antagonistes politiques représentant les deux côtés des questions relatives à l'esclavage. Les antagonistes favorables à l'esclavage, qui cherchaient à maintenir la pratique de l'esclavage, ont perdu la bataille. À partir de 1798 et jusqu'à la guerre civile, la corne du protestantisme a été soumise à un processus qui a produit deux catégories d'adversaires religieux représentant les deux côtés de la question de l'esclavage. Les adversaires pro-esclavagistes qui cherchaient à perpétuer l'interprétation originelle de la prophétie relative à l'esclavage ont perdu la bataille.
En 1613, le clairon du républicanisme parvint à rejeter la pratique de l'esclavage.
En 1517, le corps du protestantisme parvint à rejeter la prophétie de l'esclavage.
Ce faisant, ils ont rejeté l'œuvre de Miller, l'Élie de son époque.
Ce faisant, ils ont aussi rejeté le serment de Moïse, la pierre angulaire de leur époque. Moïse et Élie ont alors été rejetés, pour ne revenir que le 11 septembre 2001.
Alpha et Omega, le merveilleux linguiste, a inscrit sa signature divine tout au long de la prophétie temporelle du serment de Moïse qu'il a lui-même proclamé, en tant que Palmoni, le merveilleux dénombreur. Si vous ne croyez pas, assurément, vous ne serez pas affermi.